Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, vous êtes sur RDWA sur le 107.5 FM. Vous nous écoutez aussi sur www.rdwa.fr. Cette année, le Festival Est-Ouest met à l'honneur l'Estonie jusqu'au 28 septembre. Dans ce cadre, vous pouvez rencontrer des écrivains, des artistes, des musiciens, qui sont tous estoniens et qui nous font l'honneur de venir nous rencontrer sur le territoire du Diwa. Mais vous pouvez aussi participer à des ateliers de cuisine, découvrir des danses folkloriques, des chants traditionnels, regarder des films, discuter avec des historiens, débattre avec des metteurs en scène qui nous font tous l'honneur de venir séjourner chez nous. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver tout le programme détaillé du Festival Est-Ouest qui met l'honneur l'Estonie, toutes les informations pratiques sur le site internet du Festival Est-Ouest que vous avez sur www.est-ouest.com précisément. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un auteur estonien et un historien. Tout d'abord, Tõnu Nepalu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et poète, également connu sous d'autres pseudonymes, puisque on vous trouve aussi connu sous le pseudonyme d'Anton Nigoff ou d'Emil Todd. Vous êtes considéré par beaucoup comme le romancier estonien contemporain majeur. Bienvenue. Nous recevons aussi Marek Tam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, souvent désigné comme l'un des principaux intellectuels estoniens. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'histoire de l'Université de Tallinn. Vous êtes spécialiste d'histoire médiévale et de théorie culturelle, mais vous êtes aussi éditeur et traducteur. On reviendra en détail sur votre parcours. Merci de votre présence. Alors, tout d'abord, est-ce que vous savez comment est venu le fait de mettre l'Estonie à l'honneur sur ce festival Est-Ouest ? Comment vous avez été approché par le festival ?
Je pense que mes premiers contacts se datent plus d'un an, en fait. Je pense que j'ai reçu une petite délégation du festival à Tallinn il y a plus d'un an. Je présentais un peu le paysage littéraire en Estonie à ces deux invités de représentants du festival. Et puis, dernière fois, c'était encore, je pense, il y a 2-3 mois, que les organisateurs de festivals se sont rendus à Tallinn, où nous nous sommes rencontrés, on fixait des sujets de table ronde, etc. Donc oui, ça fait quelques temps que le festival est en progrès.
Vous avez été un des instigateurs, parce que je sais que vous avez une histoire avec la France quand même assez imbriquée.
Oui, je suis francophone, francophile de longue date. En fait, le français était ma première langue étrangère. J'ai commencé à l'apprendre quand j'avais, je pense, 7 ans. Et j'y viens assez régulièrement depuis une vingtaine d'années. J'ai passé une année, en la fin des années 90, à étudier à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris. Et voilà, et depuis, je garde mes contacts. Donc, mais je dois dire, dans cette région, en 10, je suis pour la première fois. Et tout ce que j'ai vu jusqu'ici m'impressionne beaucoup.
Alors, je n'en doute pas. Vous êtes historien du Moyen-Âge, mais vous avez effectivement, comme vous le disiez, également étudié en France à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi professeur agrégé de culturologie et chercheur d'histoire à l'Université de Tallinn. Mais vous êtes aussi éditeur d'un journal, Vicar Carr, et responsable des éditions Varak. C'est bien ça, hein?
Oui, je suis une des éditeurs dans cette maison d'édition qui est une des plus grandes en Estonie et qui notamment édite les livres de Tõnu Nepalu à mes côtés.
Dont on va parler tout à l'heure. Vous invitez aussi régulièrement d'éminentes figures intellectuelles françaises en Estonie. Vous avez même reçu les palmes académiques de l'ambassadeur de France.
En effet, merci à la France.
Merci à vous pour le travail que vous faites en Estonie et pour le rayonnement culturel de la France. Alors, Tõnu Nepalu, une première question par rapport à vos ouvrages. Vous avez débuté votre carrière d'écrivain comme poète, d'abord assez contemplatif, apparemment, dans votre style, en tout cas très centré sur la nature, je trouve, sur les quelques extraits que j'ai pu en lire. Vous avez une poésie quand même qui a évolué au fil du temps. Elle est devenue plus subjective, plus inquiète, peut-être plus philosophique aussi.
Peut-être, oui.
Peut-être, c'est aussi comme ça que vous définiriez votre parcours en poétique.
Oui, en général, oui.
Et au début des années 90, vous aviez derrière vous une carrière extrêmement prometteuse. Alors que tout le monde attendait de nouveaux recueils de poèmes, vous arrêtez tout et vous vous lancez dans la traduction. C'était quoi ? Une lassitude ? L'envie d'autre chose ?
Non, j'ai commencé les traductions avant. C'était, non, je n'ai pas abandonné d'écrire la poésie. En fait, peut-être j'ai l'abandonné maintenant. Je n'ai plus de projet de publier un livre de poèmes. Je crois que je ne ferai plus. Mais à l'époque, au début des années 90, d'ailleurs, c'est mon deuxième festival à Die. J'y étais déjà une fois.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'était bien sûr, c'était une époque de changement, de changement profond. Et c'était un printemps 93. Je me trouvais à Paris, soudainement. Et je n'avais pas de projet d'écrire un roman là-bas. Mais ça m'arrivait.
Oui, je crois que vous étiez venu pour traduire une anthologie de la poésie française à l'origine.
Exactement, ce que j'ai jamais fait.
Oui, mais bon, vous avez sorti quelque chose de formidable derrière, parce que Pays Frontières a été quand même traduit, je crois, dans 12, 14 langues, 14
plus d'une vingtaine.
Plus d'une vingtaine de langues, oui. Ah oui, c'est un succès international. Alors, par rapport à tout ça, vous avez traduit quand même des auteurs comme Romain Gary. Oui. Par exemple, bon, enfin, vous en avez traduit beaucoup, hein, François Mauriac, Sébastien Japrisot, par exemple. Vous avez aussi l'intégrale des Fleurs du Mal. Une vraie passion pour la littérature française ?
Oui, je peux dire. Finalement, c'est une littérature vaste. Et on peut trouver, je crois que chacun peut trouver quelque chose pour lui dans cette... Dans ce paysage littéraire. Et c'est, pour moi, c'était la raison pour la raison d'apprendre le français exactement. Je n'ai pas l'appris à l'école comme Marek, mais je l'ai appris comme ça en lisant, puis en traduisant, et puis en venant en France, etc. Donc j'ai... Et finalement, je ne la maîtrise pas. C'est, pour moi, c'est plutôt une langue pour lire.
Oui, effectivement, c'est une belle remarque. En passant des langues baltes à la langue française, effectivement, ça s'explique assez bien. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez venu en 93 en France, donc on précisait que c'était à l'origine pour essayer de traduire une anthologie de la poésie française, et c'est à ce moment-là que vous écrivez en fait Pays Frontières, que vous publiez sous le pseudonyme d'Émile Todd, qui va connaître un énorme succès, qui fait un petit peu l'effet d'une bombe quand même en Estonie. On se demande qui est cet auteur qui fait un tel tabac, en même temps avec une sacrée ambiguïté, puisque je crois que dans l'aspect grammatical estonien, il n'y a pas de genre, donc on ne sait pas si le genre est masculin et féminin, et donc on ne sait pas si c'est le premier roman homosexuel estonien, ou alors s'il s'agit d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment, Tonu ?
Je ne sais pas, il faut demander à Monsieur Todd. En fait, j'ai commencé à l'écrire comme une histoire d'une femme, oui. Mais ensuite, c'est devenu un peu plus ambigu. Mais je n'ai pas décidé. C'est à chacun à décider.
À chacun de prendre. C'est une belle réponse. Et en même temps, votre pseudonyme n'a pas tenu longtemps, parce que vous avez vite été reconnu en fait dans votre style fluide, dans le côté poétique. C'est réel ou pas ? Vous avez été quand même vite dépisté. On s'est dit, c'est pas possible qu'un auteur estonien sorte quelque chose de cette qualité-là sans avoir fait autre chose avant, quoi.
Enfin, c'est un petit pays. C'est
aussi,
comme,
oui.
C'est pas comme la France.
On est vite repéré.
On est vite repéré. Hein. Et peut-être je ne cachais pas assez. C'était mon côté 20, merci.
Alors, dans ce roman, vous avez quand même manifestement un certain nombre d'éléments autobiographiques. Il y a beaucoup de parallèles quand même. Le personnage principal, comme vous-même, il séjourne à Paris. Il y séjourne avec une bourse de traduction, ce qui fut aussi votre cas. Mais il passe davantage de temps à se promener et à observer le monde qui l'entoure, ce qui a été votre cas aussi. Vous veniez pour traduire une anthologie de la poésie. En fait, vous passiez votre temps à vous balader dans les rues de Paris avec une prédilection pour l'île Saint-Louis, pour les quais, pour la forêt de Saint-Germain. Vous aimiez aussi vous réfugier un petit peu pour vous remettre en immersion nature et reprendre peut-être cette racine avec la poésie qui est vraiment inspiratrice pour vous, et en même temps peut-être aussi pour bénéficier d'un climat de protection par rapport à toute cette violence, cet anonymat de la cité parisienne.
Oui, bien sûr, j'aime bien d'être ailleurs, d'être pas chez moi, parce que ailleurs, à l'étranger, on est personne. On n'est plus ce personnage qu'on est habitué d'être chez soi.
Alors, dans votre récit dans Pays Frontières, l'histoire s'articule autour de la liaison du personnage principal avec un professeur de philosophie, Franz. Une liaison très ambivalente tout de même, où chez le partenaire estonien, très vite on voit que le mépris et la haine finissent par l'emporter sur la curiosité du départ. Qu'est-ce que ça cache sous-jacente? Une sorte d'ambivalence qui se retrouve dans la façon dont le personnage principal perçoit la société peut-être occidentale, pour laquelle il nourrit quand même une certaine fascination qui est mêlée un petit peu aussi de répulsion. Est-ce que c'est ce regard, en fait, l'exercice de décrire une Europe occidentale vue avec un regard d'Européen oriental?
Oui, bien sûr. Ce contraste était bien, bien voyant exactement à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ambigu de l'autre sens. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir en Estonie et écrire un pays frontière. S'il vient, par exemple, de l'Ukraine ou de la Syrie, il verra exactement les mêmes mensonges, les mêmes poses que j'ai vu il y a 22 ans à Paris. Quand on vient de l'extérieur, on observe de la manière différente, bien sûr. On n'est pas d'ici, on ne fait pas partie de cette société, on ne partage pas ses convictions, parfois mensongères, etc.
Alors, j'en profite pour faire le lien avec notre second invité, avec Marek. Donc, on a précisé votre parcours en tant qu'historien. Au-delà de tout ce qui vient d'être évoqué, ce regard de la société civile estonienne, en fait, sur l'un d'autre. Déjà, c'est vrai qu'entre la France et vous, c'est quand même quelque part une grande histoire d'amour, mais il serait bon, je pense, pour nos auditeurs, de rappeler un petit peu les grandes lignes de l'histoire, en fait, de l'Estonie. En France, on sait quelque chose. On sait que vous avez rejoint la communauté européenne en 2004. On sait qu'effectivement, il y a eu tout un ensemble d'occupations. Mais on n'a pas l'essence même de tout ce que ça représente dans la tête d'un Estonien. Vous deux, vous avez vécu la rentrée dans l'indépendance réelle en 91, enfin de la re-indépendance, puisqu'en fait, il y a eu déjà une première indépendance de 1918 à 1939.
Jusqu'à 40, puis une série d'occupations soviétiques et allemandes qui ont mis la fin à l'indépendance. En fait, je dirais que le titre même du roman de Tenou, Le pays frontière, résume bien l'histoire de l'Estonie, parce que le destin de l'Estonie a été déterminé par sa position géographique et géopolitique. C'est un pays qui se trouve, je dirais, entre deux empires ou deux sphères d'influence immenses. Un côté, la Russie, ou l'Union soviétique, ou comme vous voulez, une empire russe. Et puis, de l'autre côté, nous avons, disons, une empire germanique qui a pris des formes différentes au cours de l'histoire. Mais c'est clair que l'Estonie a toujours été entre ces deux grands pouvoirs. Et c'est pendant quelques temps plutôt de l'Empire russe qui a pris l'emprise sur les territoires estoniens. Ou bien c'est, disons, l'Empire germanique, y compris les pays scandinaves, qui ont régné en Estonie. Donc, pour résumer très brièvement, l'Estonie, finalement, entre en histoire, en histoire écrite, au début du XIIIe siècle. Avant, on ne sait très peu. C'est que l'information archéologique qui nous dit quelque chose. Mais en fait, c'est la conquête et la christianisation du pays par les Allemands et par les Danois. Au début du XIIIe siècle, que l'Estonie, voilà, est connue dans la source écrite, où le pays est christianisé et gouverné donc par les nouveaux maîtres, par les Allemands, les chevaliers teutoniques et par les rois de Danemark pour la partie nord de l'Estonie. Et ça a duré comme ça jusqu'au XVIe siècle, quand la Russie est la Russie de l'époque du XVIe siècle a décidé de à prendre le pouvoir dans le pays. Donc on a eu toute une série de conflits militaires qu'on appelle la guerre de Livonie. Et puis pendant après cette première intervention russe, sont aussi mêlés dans le conflit les Suédois, les Danois. Et finalement le pays a été gouverné jusqu'au milieu du XVIe siècle par ces trois grands pouvoirs. Puis c'est les Suédois qui ont réussi de prendre la possession de tout le territoire jusqu'au début du XVIIIe, quand les Russes sont revenus avec Pierre le Grand. Et donc finalement, l'Estonie faisait partie de la Russie depuis le début du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle, pour deux siècles. Et c'est juste, je dirais, par une chance heureuse que l'Estonie a pu fonder son État juste après la Première Guerre mondiale et donc rester un pays indépendant, l'État indépendant entre les deux guerres mondiales. Et puis, avec l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, que d'abord la Russie soviétique a réussi de conquérir le pays, puis sont arrivés les Allemands, et finalement en 1944, la Russie soviétique s'est installée dans le pays, a occupé, annexé le pays, et c'est là jusqu'à la perestroïka, jusqu'à la fin des années 80, quand l'Estonie a réussi, encore dans cette nouvelle situation heureuse, de retrouver son indépendance. Et en effet, depuis 1991, l'Estonie est encore à nouveau un pays indépendant, et depuis 2004, en effet, fait partie de l'Union européenne. Donc, une histoire très mouvementée, toujours sous l'influence de ses grands voisins, et toujours a réussi à profiter ces petits moments de liberté, juste après la Première Guerre mondiale, juste après l'éclatement de l'Union soviétique, pour établir ou rétablir son indépendance.
Alors, a passé une identité quand même très brouillée, en fait.
Très brouillée, et parfois, je dirais, aussi très traumatique. Ce qui explique aussi que, finalement, les Estoniens s'intéressent beaucoup au passé, parce que ce sont le passé, aussi le traumatisme du passé qui influence les décisions d'aujourd'hui. Et aussi que, par exemple, la littérature s'intéresse beaucoup à l'histoire, que le roman historique est un genre bien mis en valeur en Estonie, et qu'en effet, les historiens, mais aussi les écrivains, participent à ce travail des mémoires qui nous aide à nous affronter pour l'avenir, avec l'avenir.
Tout à fait. Alors, j'en profite pour vous poser une double question que vous posez assez souvent, en fait, à vos étudiants, notamment lorsqu'ils arrivent chez vous. Quels sont les événements et les personnages importants qui ont véritablement marqué l'histoire de votre pays, l'Estonie?
Oui, en fait, c'est une question que je pose en effet à mes étudiantes, mais avec une double sens, parce que, d'un côté, on peut en effet penser aux événements ou aux personnalités historiques qui ont joué un rôle déterminant du point de vue de l'histoire, de science historique. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le deuxième sens de la question, c'est les personnes qui ont marqué la mémoire historique, qui ont été, pour des raisons différentes, glorifiée, mise en valeur dans notre mémoire historique. Et en effet, on voit qu'il y a des décalages. Parfois, des événements que, du point de vue d'un historien, ont joué un rôle déterminant, ne sont pas tellement appréciés par les gens, par les, y compris les étudiants. En revanche, on a des événements mythiques, considérés comme fondateurs, qui en fait, du point de vue strictement historique, on y comptait très peu, ou bien ça n'a pas été très important. Par exemple, en effet, toute cette période des croisades, de la conquête, est commémorée dans la mémoire historique des Estoniens comme une bataille pour la liberté, une bataille pour l'indépendance même. Et bien sûr, c'est une lecture un peu anachronique, parce qu'il n'y avait pas l'État estonien au début du XIIIe siècle. En plus, on sait aussi que le pays ne formait pas une unité. Il y avait des peuplades qui souvent étaient en querelle entre eux. Il n'y a pas une langue ni la culture unique à l'époque. Mais néanmoins, on considère que voilà, il y avait cette bataille glorieuse pour l'indépendance du pays. Par exemple, il y a un événement mythique dont on connaît très peu des choses parce qu'il n'y a pas de source, qui date de 1343, qu'on appelle la résurrection de la nuit de Saint-Georges, qui était une sorte de résurrection des paysans contre l'ordre teutonique qui gouverne le pays et qui est devenu dans la mémoire historique des Estoniens un événement fondateur, un événement crucial qui un peu montre que nos ancêtres ont voulu aussi battre pour la liberté. Mais finalement, comme je disais, du point de vue historique, on sait très peu de choses de cet événement et selon toutes les probabilités, il n'y avait rien à voir avec un désir de l'indépendance ou d'autres. C'était plutôt un conflit féodal typique entre le seigneur et ses paysans. Et donc sans aucune contexte politique précis. Donc voilà, mais par exemple, je pense pour les personnalités, bien sûr, ceux qui ont un rôle spécial dans la mémoire des Estoniens, c'est le premier président de la République avant la Deuxième Guerre mondiale, Konstantin Päts, qui en revanche est aussi une personnalité ambiguë, parce que son comportement à la fin des années 30 n'était pas impeccable, on dirait, parce qu'il a assez... D'abord, il a gouverné le pays depuis 1934 d'une manière autoritaire. Il n'y avait pas une vraie démocratie à l'époque en Estonie. Et puis aussi, assez tranquillement, a offert le pays aux Soviétiques. Mais néanmoins...
Il a fini tout de même déporté.
Oui,
et il est décédé, je crois,
mais il n'était pas tué comme plusieurs des autres hommes politiques qui ont eu plus de courage, je dirais. Et donc, mais néanmoins, dans la mémoire historique, quand même, il est toujours bien valorisé, en tout cas jusqu'à ces dernières années. Et voilà. Donc, mais en effet, je pourrais donner toute une liste, mais des noms imprononçables en français, je pense que cela va ne pas intéresser nos éditeurs. Mais je pense que dans l'histoire de chaque pays, il y a ce type de décalage entre les recherches historiques et la mémoire collective, la mémoire historique. Et c'est aussi
c'est
pour l'Estonie.
C'est ce qu'avait fait ce pasteur, en fait, qui a essayé de collecter toute la mémoire folklorique,
oui.
En fait, qui était principalement une tradition orale.
Oui. En fait, de ce point de vue, c'est vrai qu'en Estonie, on a tendance de valoriser plutôt les gens de la culture qui ont contribué à la création de l'identité culturelle et nationale en Estonie, y compris un pasteur, Jakob Hurt, qui a eu cette idée heureuse à la fin du 19e siècle, de commencer à collecter la folklore, les traditions orales des Estoniens, qui ont abouti à une archive énorme de la culture orale. Et l'idée était très facile, très simple, c'est-à-dire que comme les Estoniens ne participaient à la culture de l'élite, il n'y avait presque pas de la culture écrite. Donc il fallait trouver l'âme des Estoniens, l'esprit des Estoniens, dans la culture orale. Et pour cela, il faut les recueillir, les conserver pour les futures générations. Ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, et toujours les Estoniens considèrent que leur véritable littérature, c'est la littérature orale.
C'est une belle définition, effectivement. Surtout pour l'écrivain qui est à côté de nous, je ne sais pas s'il partage complètement ce point de vue.
De quelque façon, oui. Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivé de quelque façon aussi, personnellement, à cette oralité, parce que les dernières années, je m'occupais beaucoup de théâtre. Et c'est ça. C'est l'oralité, c'est... Ce n'est pas les choses écrites, finalement, qui sont sur la scène, mais les choses dites. Et j'aime beaucoup ça. J'aime aussi lire mes poèmes publiquement, etc. Je trouve que finalement, la parole ne vit pas sur les pages. Ce ne sont que les signes noirs et blancs. Mais... Elle devient vivante quand quelqu'un la prononce.
Il y aura d'ailleurs plusieurs ateliers de lecture, en fait, hein, de vos textes. On les citera tout à l'heure. On essaiera de donner ces espaces et aussi la possibilité de vous rencontrer et d'avoir des autobiographies et des dédicaces. Marek ?
Je pourrais même ajouter que peut-être l'importance de cette littérature orale explique aussi la position centrale de la poésie dans la littérature estonienne. Je pense qu'il n'y a pas tellement de pays où on apprécie tellement la poésie, qu'on lit tellement la poésie, qu'il y a tellement de poètes. On publie en Estonie des centaines de recueils de poèmes par an pour une population de moins de 1 million d'estophones. Donc je pense que ça fait partie de cette tradition orale qui valorise la poésie et aussi la lecture de la poésie.
Et peut-être aussi cette position vraiment importante de théâtre aujourd'hui aussi, en Estonie. Et on sort une production presque chaque jour en Estonie.
Oui. Ouais. Impressionnant, effectivement. Ouais.
Tous les soirs, une première.
Ouais.
Ah oui, ben, c'est bien. On ne s'ennuie pas en Estonie.
Et on dit que chaque Estonien fait 7 fois par année au théâtre. Donc c'est énorme.
C'est énorme, effectivement. Bravo. Alors, en France, si vous voulez, on a eu l'impression, juste au moment de l'entrée dans l'Union européenne, qu'il y avait une certaine forme de crainte des Estoniens, soit de perte d'identité. C'est un petit pays qui, en même temps, avait vraiment peut-être d'autres priorités, comme la réconciliation, avec une population quand même qui est encore liée avec des Estoniens et des Russes, donc une rencontre multiethnique et multiculturelle aussi. Est-ce que c'est toujours le cas et quelle est la représentation actuelle qu'ont les Estoniens de l'Europe ? C'est une question que je pose à tous les deux.
Je peux commencer encore par l'histoire en disant que pour comprendre l'Estonie, il faut se rendre compte que c'est un pays où l'identité se passe sur la langue et sur la culture, non pas sur l'État, sur la politique. Donc c'est une identité linguistique qui définit les Estoniens et c'est qui explique aussi cette peur, souvent inconsciente ou sans un objet particulier, devant la disparition de la langue, de la culture. Donc on vit dans une inquiétude permanente de perdre notre identité linguistique parce que finalement on a fait une langue qui n'est parlée que par une million de personnes et toujours en risque de disparaître. Tandis qu'en France, un Français, quand il se lève le matin, il ne pose pas la question « est-ce que le français va survivre ou non aujourd'hui ?» C'est une inquiétude qui caractérise la plupart des Estoniens. Et donc, en effet, quand il y a eu ce projet d'adhésion à l'Union européenne, une des questions que beaucoup des Estoniens se sont posées, est-ce que l'Estonien va survivre au sein de l'Union européenne, au sein de toutes ces grandes langues, ou non ? Moi, honnêtement, j'ai toujours pensé que l'Union européenne est une des garanties de la survie de l'Estonien, parce que l'Estonien devient une des langues officielles de l'Union, qui veut dire que s'il y a beaucoup des traductions officielles ou littéraires qui vont se produire, aussi que l'Estonien devient une langue parlée au Parlement européen, etc. Donc moi, je n'ai pas eu cette peur, mais je comprends cette peur profonde qui toujours tourmente certains Estoniens. Est-ce que nous allons survivre ? Est-ce que notre langue, notre culture va survivre ? Donc j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas jusqu'à ces derniers temps, cette peur s'est atténuée. Donc
les Estoniens ont vu que l'idée de l'Union européenne ne pas mélanger toutes les cultures, etc. Donc en fait, c'est une union qui plutôt protège des cultures minoritaires. Mais ces derniers temps encore, avec tout le nouveau problème qu'on a, y compris avec les réfugiés, on a toujours ces peurs que l'Union devienne trop, comment dirais-je, trop centriste, que les décisions sont prises seulement par un petit groupe de leaders des grands pays, etc. Donc, certaines inquiétudes se sont retournées, je dirais. Mais en général, je pense que l'Estonie est toujours assez europhile, dans le sens qu'on voit qu'on profite beaucoup plus qu'on perde en faisant partie de l'Union.
Vous partagez ce point de vue, Tonu, malgré toutes les petites incisions que vous faites quand vous décrivez l'Europe occidentale ?
Oui, je ne crois pas que l'Union européenne va faire perdre la langue estonienne, surtout pas. Mais il est vrai que cette langue change très vite les dernières années. Mais c'est pas une fête de l'Union, mais c'est une fête de temps moderne. C'est-à-dire des changements qui sont en cours partout, pas seulement en Estonie. Je crois que c'est Ça va aussi pour le français, que toutes les langues historiques changent très vite, se mélangent peut-être. Bon, c'est un anglais approximatif qui est partout, mais je connais pas des remèdes pour ces changements. Même je ne crois pas qu'il faut les chercher. Les temps changent. C'est tout.
Très bien. Alors, Tonu, vous avez publié par la suite, après Pays Frontières, deux autres romans, Le Prix en 1995 et Princesse en 1997. Puis vous publiez un nouveau recueil de poèmes, La Mesure en 1996. Et vous avez traduit en estonien l'intégrale des Fleurs du Mal, comme je le disais tout à l'heure. Et vous faites un nouveau séjour à Paris, cette fois en tant que directeur de l'Institut estonien. Alors un institut estonien sans vraiment budget, sans vraiment de compétences non plus. Vous le trouvez peut-être un petit peu parachuté là. C'est un peu une expérience particulière, j'ai l'impression.
Et disparu depuis. Depuis déjà 7 ans, je crois.
Voilà, mais comme à chaque fois, vous rebondissez et vous profitez de ce séjour, en fait, pour vous consacrer à un volumineux journal intellectuel, Exercice, qui sera publié en 2002, sous un autre pseudonyme, Anton Nigoff, aussitôt suivi d'un nouveau roman, Radio, cette fois sous le pseudonyme d'Emile Todd. Et en 2007, vous lancez dans la rédaction de Journal de Flandre, que vous écrivez pendant une résidence dans Volzel, près de Bruxelles. Ma première question, c'est pourquoi tant de pseudonymes ? Vos œuvres sont-elles tellement sincères qu'elles en deviennent trop lourdes à porter pour un seul homme ? Et est-ce que c'est votre écriture de la vérité, votre volonté de viser la sincérité et la lucidité absolue, ou bien votre refus des illusions et des conventions sociales qui vous poussent à cette dissimulation derrière des pseudonymes, qui est un petit peu paradoxal comparativement à l'authenticité de vos écrits?
Il est vrai surtout pour ce premier roman. Je n'ai pas voulu qu'on détecte tout de suite qui l'a écrit. D'abord parce que j'ai publié déjà de la poésie, donc mon nom était déjà connu comme un nom d'auteur, mais je n'ai pas publié de romans avant, et j'ai voulu que ce soit complètement quelque chose de complètement nouveau, parce que déjà les temps ont changé brusquement, et tout a changé à l'époque. Donc j'ai voulu que ce soit, que ça surgit de nulle part. Et puis, il y avait un côté pratique. J'ai travaillé pour très court temps, mais justement à l'époque, quand j'ai publié ce livre, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères. Et vraiment, je n'ai pas voulu qu'on sache là-bas qui était ce type qui a écrit ce livre. Mais finalement, c'est, le secret ne s'éteignait pas long, donc, et c'était pas si grave que ça.
Ouais. Et pourquoi vous ne le vouliez pas? Parce que c'était trop sincère comme ouvrage ou...
Oui, je crois, oui. Et finalement, je l'imaginais, et j'imagine jamais la réaction qu'un livre peut avoir. Parfois, j'exagère, parfois, je le diminue d'avant. Parce que en écrivant, on maîtrise beaucoup de choses. On peut faire ça, on peut faire ceci et cela. On peut changer, on peut supprimer. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la signification de ce qu'on écrit. Ce sont les autres qui donnent la signification, qui disent qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est que ça. Donc... C'est toujours une inquiétude avant. Quand on publie quelque chose, quand on sort quelque chose de soi-même, de son âme.
Vous avez une sorte de méfiance ou d'inquiétude des milieux culturels, du regard qu'ils peuvent porter sur vous?
Aujourd'hui, pas tellement, parce que...
Vous n'avez plus grand-chose à prouver avec tout ce que vous avez écrit, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, et puis j'ai compris que tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a des lectures différentes, donc j'ai compris que pour chaque livre, il y a au moins un lecteur qui l'aime, donc c'est... Non. Mais tout de même, Je ne sais jamais si j'arrive à dire que je veux dire ou non.
Ouais. Alors, dans l'exercice, vous décrivez vos activités journalières. Vous nous livrez tout ça dans des images automnales extrêmement poétiques de Paris. Vous vous mettez en quête des zones les plus paisibles, les plus isolées, celles qui sont un petit peu en marge de l'agitation urbaine. Et puis vous nous présentez aussi des observations sur la société française, sur la vie dans une grande ville, sur l'indifférence qui ressort quand même assez souvent, justement cet anonymat qu'il y a dans les grandes cités, parfois aussi sur la violence. Vous relatez également en détail certains de vos rêves, qui sont souvent comme une présence brouillée du passé dans le présent. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu en parcourant quelques extraits. Est-ce que c'est le passé et l'identité brouillée de l'Estonie qui vous influencent?
Ce journal-là, ou ces exercices, parce que c'était vraiment des exercices à écrire. J'ai cherché une nouvelle façon d'écrire pour moi-même. Et en même temps, j'ai fouillé dans mon passé, pas seulement personnel, mais mon passé familial. Et c'est pour ça, ce pseudonyme, Nikov. Nikov était le nom de mon père et mon grand-père avant qu'ils l'ont changé, les années 30. C'était un grand mode à l'époque de changer ces noms de famille, pas vraiment estoniens, en nom estonien, vraiment estonien. Sauf que Nikov n'était pas ni un nom russe ni un nom allemand, c'était un nom estonien, mais ça sonnait un peu étranger. Donc mon grand-père l'a changé. Mais j'aurais pu être Nikov aujourd'hui s'il n'aurait pas fait ça. Donc, c'est aussi un passé malheureusement traumatisé, parce que ce même grand-père était déporté. On croyait pour longtemps qu'il était fusillé, mais en fait, il était déporté en Russie. Il est mort là assez vite. Mais voilà. Mais c'était quelque chose dans la famille je crois que c'est quelque chose qui a changé beaucoup de la... Bien sûr, de la vie de mon père. Et c'était des choses qu'on ne disait jamais.
C'était une façon d'essayer de comprendre son propre passé?
Oui,
Un petit peu comme l'Estonie essaie de comprendre le sien et de le matérialiser aujourd'hui. Oui. Alors, par rapport à ça, tout à l'heure, vous disiez en 91, effectivement, l'indépendance, nouvelle indépendance, hein, puisque l'Estonie avait déjà existé en tant que telle. Et puis, il y a cette problématique, à partir du moment où il y a le pacte de non-agression qui est signé entre l'Union soviétique et l'Allemagne, eh bien, forcément, en juin 1940, les troupes soviétiques occupent le pays, qui est très rapidement incorporé dans l'Union soviétique. Il y a 8000 ennemis du peuple, entre guillemets, qui sont alors arrêtés, et plus de 30 000 personnes sont enrôlées de force dans les rangs de l'armée rouge. Et puis à l'été 1941, il y a les Allemands qui envahissent à leur tour l'Estonie, ce qui est un peu difficile à admettre du point de vue ouest de notre conception à nous, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui accueillent les nazis favorablement, puisqu'ils voient ça vraiment comme une opportunité contre les soviétiques. Et il y a plus de 40 000 personnes qui se portent volontaires, notamment pour combattre dans les Waffen-SS, et qui ne sont pas mues par une conviction idéologique, mais bien plutôt par une volonté de porter un coup décisif à l'ennemi soviétique. Après la guerre, il y a une répression soviétique, en l'occurrence, qui, elle, est terrible. En quelques jours, il y a plus de 20 000 Estoniens qui sont déportés en Sibérie. En seulement quelques jours, 3000 vont mourir en route, ne parviendront même pas en Sibérie. Ensuite, l'arrivée massive de travailleurs du RSS va complètement modifier en fait la démographie en Estonie. À titre d'information, en 1945, il y avait plus de 90% de la population qui était estonienne. Ce pourcentage tombe à 62% au cours des décennies suivantes. Aujourd'hui, à peu près 30% de la population. Voilà, 30% de la population est dite de langue russe. Donc, ce qui est encore relativement important pour un petit pays. Et on a donc deux populations, estoniennes et russes, qui vivent côte à côte, pacifiquement, avec quand même de temps en temps des petites fièvres, une certaine fébrilité. Hein, on pourra parler peut-être de l'histoire du soldat de bronze. Enfin, vous pourrez peut-être nous l'illustrer comme ça avec des petites anecdotes de l'histoire estonienne qui sont assez marquantes. Cette histoire tourmentée, Marek, est-ce qu'elle inspire au peuple estonien un sentiment de menace permanente? Est-ce que c'est une motivation aussi pour l'inciter à définir son identité en opposition à d'autres? On pourrait très bien l'imaginer, par exemple, par rapport à cette influence russe ou cette influence allemande que vous décriviez si bien tout à l'heure. Et au-delà, pour l'historien que vous êtes, est-ce qu'il s'agit donc, on se doute bien, on comprend bien, qu'on n'est pas sur une matière scolaire quand on parle d'histoire estonienne. On n'est pas non plus sur l'organisation de colloques ou de grands séminaires entre historiens. On est plutôt véritablement dans le but de se lancer dans une reconquête, dans un affranchissement aussi sans doute, qui est lié de façon étroite à la nécessité de construction et d'assimilation d'une mémoire. Est-ce que c'est réalisable vraiment de marier ces deux mondes parallèles que sont l'Estonie et la Russie?
Ah oui, une question bien vaste. Oui, mais la résumé de l'histoire tourmentée était assez exacte, sauf peut-être un détail que c'est les relations des Estoniens vis-à-vis les nazis au début des années 40 étaient plus ambiguës. C'est vrai qu'il y a eu au début un certain enthousiasme qui s'explique par le choc de cette première occupation soviétique, par tous ces victimes. Mais en fait, assez vite, la plupart des gens étaient désillusionnés. On a compris que l'Allemagne ne va pas nous garantir une indépendance. Et aussi, par exemple, quand l'armée allemande a voulu recruter des Estoniens, il y avait très peu de gens qui se sont portés comme candidats. Et c'est seulement à la fin de cette occupation allemande, 1944, que le recrutement s'est réussi. D'abord pour une raison que c'était devenu obligatoire, donc on risque de sa vie si on ne se porte pas. Et puis deuxièmement, en effet, ce moment où on a vu le retour de l'armée soviétique, et donc en effet, on a accepté cette costume, disons, militaire de la Waffen-SS pour partir contre les Russes. Mais depuis, parce que l'occupation soviétique qui s'en suivait à partir de 1944 s'est traduit aussi dans une nouvelle politique de la mémoire. Ce qui veut dire qu'on a pratiquement essayé de faire oublier toute l'histoire de l'indépendance, tous les héros qu'on a mis en valeur avant la Deuxième Guerre mondiale, etc. On a voulu aussi gommer la mémoire de tous ces gens qui ont quitté le pays. Et donc, en effet, depuis la fin des années 80, début des 90, il y a eu cette volonté de retourner à cette mémoire d'avant-guerre et de rétablir notre interprétation du passé. Et ce qui veut dire que depuis la fin des années 80, il y avait ce que j'appelle une politique de l'histoire, politique mémorielle, très importante en Estonie. Et même, on a eu un moment, au début des années 90, où, je dirais, pratiquement, le pays a été gouverné par les historiens, parce qu'il y avait le président historien, il y avait le premier ministre historien, il y avait le premier secrétaire du Parlement historien, etc. Donc, en effet, ça explique cette importance de l'histoire et des historiens qui ont fait une capitale politique en parlant de l'histoire, en offrant une nouvelle perspective, une nouvelle interprétation de l'histoire. Et depuis, en effet, je dirais que cet intérêt s'est décliné un peu, mais ça reste important. Et ça reste toujours important dans nos relations avec la Russie et avec la relation de la population russophone, qui en effet n'est pas russe, parce que ça contient aussi des Ukrainiens, des Géorgiens, des Arméniens, etc. Et les relations se sont calmées un peu, en tout cas c'est mon impression à moi, depuis 5 ans, disons. Mais néanmoins, ça reste compliqué, et pas seulement pour des raisons historiques ou mémorielles, mais aussi pour des raisons socio-économiques, parce qu'il faut savoir que c'est... Nouveaux venus, ces ouvriers russophones qui sont installés en Estonie à partir des années 50 principalement, se sont concentrés sur certaines régions, notamment à l'est de l'Estonie, pour travailler dans des grandes usines. Et bien sûr, depuis le rétablissement de l'indépendance, il n'y a plus d'usines. Et donc, cette population-là est souvent en chômage, sans parler la langue estonienne. Et bien sûr, donc, dans une crise économique et sociale. Et donc, toutes ces tensions socio-économiques se traduisent aussi dans des tensions ethniques, politiques, etc. Donc, c'est plus complexe que ça. Tandis que même à Tallinn, où aussi une importante concentration de Russes, de russophones, il y a aussi une tendance de se concentrer sur certains quartiers. Et là aussi... donc il y a une ghettoisation est un mot trop lourd, mais quand même c'est une partie du problème, tandis qu'au sud de l'Estonie il n'y a presque pas de population russophone. Mais je reste, disons, optimiste quand je regarde les étudiants russophones qui arrivent à l'université, qui parlent couramment estonien, qui se considèrent comme des citoyens estoniens. Mais néanmoins, c'est qui toujours reste une comment dirais-je, un élément important, c'est le comportement de la Russie. C'est-à-dire que dès que M. Poutine veut instrumentaliser les Russes qui habitent au-delà de la Russie, il a toujours un risque que cette population va être excitée pour des raisons qui servent les intérêts de la Russie.
On voit déjà tout de même quand même que la politique du gouvernement qui a mis quand même l'accent sur l'éducation commence à porter des fruits. Et c'est quelque chose d'important. Oui. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Ça fait presque 50 minutes que nous sommes ensemble. Mais par contre, si vous voulez poursuivre tous ces entretiens et votre découverte de l'Estonie, alors je vous recommande particulièrement, je crois que c'est aujourd'hui, vous étiez à un café littéraire juste après l'émission. Vous êtes à 11h30 à la galerie Tiniv. Vous pourrez rencontrer Tonu Onepalu, donc avec une animation d'Harold David, à la galerie Salon de Tiniv. Vous avez aussi aujourd'hui à 18h la présentation de l'Estonie à travers son histoire par Marek Tam, ici présent. Vous voyez à quel point les deux sont passionnés par tout ce qu'ils nous disent et à quel point ils donnent envie d'en savoir plus sur l'Estonie. Alors je vous invite à continuer et à retrouver toutes ces informations sur est-ouest.com. A bientôt, vous étiez sur RDIWA 107.5 FM. Merci.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.